liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui la prennent, ici les citoyens s'en saisissent pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications pour une société plus juste, plus solidaire. Vous voulez réagir? Voici notre mail. paroledecitoyen@frequence7.net, minuscule singulier, tout attaché. Nous lisons tous les mails que vous nous adressez. Au menu du jour, comme il se doit, une entrée, un plat de résistance et un dessert. En entrée, nous ferons le point sur les luttes, actions, conférences, passées et à venir sur notre territoire. En plat de résistance, après les méga-bassines de Sainte-Soline, des gigabassines risquent de fleurir dans le puits de Dôme. Et nous terminerons toujours en solidarité avec le peuple palestinien génocidé, en partageant avec vous une recette d'un des pays du Levant. Surtout, prévoyez papier et crayon. Bon appétit! Alors, en entrée, on va commencer par l'autoroute A69 et se demander à qui profite cet ouvrage. Dénonçant un lobbying forcené du groupe Fabre pour la construction de l'autoroute, les opposants ont effectué un signalement auprès du parquet national financier pour des faits susceptibles d'être qualifiés de prise illégale d'intérêt favoritisme, blanchiment et fraude fiscale. À Tosca, le concessionnaire maintient son calendrier pour fin 2025 comme prévu. 95% de déboisement a déjà été effectué. Début décembre, le concessionnaire a également été mis en demeure par l'État pour avoir négligé la présence de chiroptères dans une maison détruite. Dans la précipitation, on a détruit un bâtiment qui était menacé de squat, mais on est allé un peu vite, concède le directeur d'Atosca. Pour compenser, 3 nichoirs ont été installés. Sur le terrain, la lutte s'intensifie. Entre par exemple l'arrosage avec de l'essence par des gendarmes de 2 arbres protégés par des écureuils, ou les actions de destruction par le feu d'engins du groupe se dénommant le GIEC, le gang d'insolents et insolentes éclatant le capital.
Juste une précision, les écureuils, ce sont des gens, hein, là. Ah.
Ils ont eu très peur ce jour-là. Voilà comment le président du conseil départemental s'exprime au sujet des actions de ces derniers jours. On ne peut plus supporter que des voyous cagoulés s'en prennent impunément à un projet vital pour notre territoire. On ne peut plus supporter que ces casseurs s'en prennent à des entreprises qui font vivre leurs propres familles et les familles de leurs salariés. À cause de ces criminels, ces travailleurs honnêtes ne pourront pas travailler les prochains jours. Alors, sur le point de vue du combat juridique, le tribunal administratif doit notamment se prononcer sur la légalité de l'autorisation environnementale accordée pour ce projet. Des plaintes ont été déposées pour des non-conformités du chantier. Mercredi 24 avril 2024, le préfet du Tarn a mis en demeure Atosca pour non-respect des règles environnementales. Il est notamment en question d'un abattage d'arbres identifié comme devant être évité.
C'est quand même extraordinaire parce que visiblement, ils ont fait des tas de choses illégales, complètement illégales, beaucoup plus illégales que de s'appeler écureuil et monter en haut d'un arbre. Et ça continue, quoi, tranquille. Enfin bon, c'est quand même... Les citoyens et les autres ne sont pas logés à la même enseigne. Autre événement récent et qui rappellera beaucoup de choses à un certain nombre d'entre nous, pas forcément les plus jeunes, c'est que le 25 avril, c'était le 50e anniversaire de la révolution des œillets au Portugal. Pour rappel, cette révolution des œillets au Portugal a mis fin à 40 ans de dictature de Salazar, qui faisait partie de la joyeuse bande Hitler, Mussolini, Franco. Au bout de 40 ans d'une dictature violente, répressive, qui a maintenu le peuple portugais dans l'ignorance et l'analphabétisme, hein, puisque les gens n'allaient pas à l'école, il n'y avait pas d'école, c'était l'horreur, et dans la misère la plus noire, ce peuple a mené à bout une révolution unanime, débordant la révolution de Palais initiée par les généraux. C'est, je crois, une des rares révolutions initiées par des militaires qui ne s'est pas terminée par une dictature dans le monde. Quoi. C'est une affaire assez rare pour être rappelée. Mais si ça est devenu comme ça, c'est parce que le peuple a pris la rue. Quoi. Les généraux ont voulu aller dans un certain sens et le peuple est allé dans un autre et a impulsé autre chose. De suite après, au bout d'un an, il y avait une constituante. Puis un an après, élection de la nouvelle assemblée sur la base de cette nouvelle constitution. Voilà, tout ça pour dire que tous les espoirs sont permis.
Ah oui. Comme quoi, ce qui s'est fait il y a 50 ans, ça peut revenir, on ne sait jamais.
Ben oui, voilà. Quel que soit le contexte, des fois, on a des bonnes surprises. Alors, autre information, ce jeudi 2 mai, en fin de journée à 19h, aux archives départementales, un spectacle gratuit, mais attention, il n'y a pas forcément énormément de place, donc il faut y aller de bonne heure, aux archives départementales à Privas, quelques histoires de femmes au Moyen-Âge. C'est dans le cadre du Festival du Conte qui se déroule sur Privas et ses environs. Anne Deval, qui fait des contes, des chansons et des Cervantes, et Fred Blanco à la musique. Et c'est un spectacle plutôt à partir de l'âge de 14 ans. À la cour de Marie de Ventadour, Trobaïritz et Jongleresse chantent et racontent des histoires. Les femmes y sont à l'honneur, elles rivalisent d'esprit pour défendre l'honneur de leur sexe. Contes issus de la légende arthurienne, des lais de Marie de France, de la tradition populaire, chansons et Cervantes. Voilà donc un peu ce que nous propose la compagnie KTA pour découvrir la place des femmes dans l'art, du coup, au Moyen-Âge. Dans le même temps, je voudrais rapprocher cet événement tout à fait intéressant, donc qui est mené par une institution publique, hein, qui est les archives départementales. Hier, je suis passée à un événement culturel aussi, qui était le vernissage d'exposition qui a lieu dans un endroit que je ne connaissais pas, le relais des muletiers à Meyras. Un endroit absolument magnifique.
C'est magnifique, cet endroit.
Vraiment très agréable, avec des planchers en verre. Enfin, et j'ai découvert que c'était un lieu public, puisque c'était une initiative de la commune d'avoir retapé ce lieu de cette façon-là. Et donc là, il y avait des expositions, quatre femmes qui exposaient. Donc une femme de Jaujac qui expose des œuvres en fer, ce qui est assez rare pour être cité aussi, deux femmes de Sagny-Goudoulé qui sont des peintres, et une autre femme de Sagny-Goudoulé qui, elle, est une artiste créatrice autour du meuble et du tissu. Hein, voilà. Je souligne ces deux événements parce que je trouve que c'est deux exemples de ce qu'on peut faire d'intéressant et d'utile pour l'ensemble de la population avec notre argent public, plutôt que des fois on voit des financements bizarroïdes partir dans des trucs du genre passage de la flamme olympique ou je ne sais quoi. J'ai vu que ça coûte la peau des fesses, ce truc-là.
Alors c'est accessible à tous, en fait.
Alors que c'est accessible à tous et tout le temps, quoi. Voilà. Et là, c'est deux choses qui sont gratuites, en fait. Voilà. Un autre événement qui me paraît tout aussi intéressant dans justement ce qui est mis à la disposition des citoyens que nous sommes, dans le cadre d'un événement qui a lieu partout en France qui s'appelle Pint of Science du 13 au 15 mai 2024, local, et qui a pour but de démystifier la recherche scientifique et la faire découvrir au grand public dans un cadre détendu. Parce que non, ben justement, dans un labo, ça ne se passe pas toujours comme dans les experts. Hein. Il y a les aléas, voilà, comme dans la vie, quoi. Et en Ardèche, on a deux antennes qui hébergent des laboratoires de recherche. Tout le monde ne le sait pas. Donc il y a d'une part Archéo-Orient, qui dépend de l'Université Lumière Lyon 2. Donc ça, c'est de la recherche en archéologie. Et en géographie, c'est le CERMOSEM qui dépend de l'Université Grenoble-Alpes. L'archéologie, donc le truc qui s'appelle Archéo-Orient, là, est basé à la commanderie de Jalès. Et le CERMOSEM, lui, est basé au Pradel. Voilà. Et ces deux organismes se sont associés pour nous proposer à l'occasion de cette semaine un programme présentant justement un état des travaux de recherche qui sont en train de mener actuellement et de le présenter. Donc ça se passe au Vence. Ça se passe au Vence, à un endroit que je ne connais pas, le Cerf du Bar, rue du Quai, au Vence. Ouverture des portes à 19h, ça commence à 19h30 et ça se termine à 23h. Pour la somme modique de 2 euros, vous avez des scientifiques qui viennent discuter avec vous de l'état de leur recherche.
Rendre compte de, voilà. De leur recherche.
Et pour ceux qui ont connu tout ce qui s'est passé autour de la grotte Chauvet, c'est vrai que, par exemple, à Chauvet, tous les étés, il y avait des campagnes de fouilles. Enfin, tous les ans, il y avait des campagnes de fouilles. Et à la conclusion de ces fouilles, chaque année, tous les chercheurs qui y faisaient des travaux, des recherches, venaient rendre compte à la population, en mairie, en grande salle, publiquement, de ben, là où ils en étaient. Ce qu'ils avaient vu, pas compris, mieux compris, enfin, etc. Et je trouve que c'est tout à fait essentiel si on veut un jour réconcilier les citoyens et la recherche et la science.
C'est un partage de savoir, en fait, et ça fait du lien, ça crée du lien quand même.
Oui, et puis c'est intéressant de voir que un chercheur, c'est pas un truc, c'est un peu comme nous, hein, c'est-à-dire il tâtonne dans la vie et il cherche, des fois il trouve, des fois il trouve pas, hein, aussi. Donc c'est intéressant d'échanger là-dessus et puis de voir les questions qui restent posées. La recherche et la science, c'est des questions, c'est pas des affirmations comme des fois certains ministres qui comprennent rien nous affirment des trucs alors que c'est juste l'état des recherches.
Alors, dans un autre domaine, moi, je voulais parler un peu de tout ce qui est interdiction, convocation, et par rapport à tout ce que tous les soutiens à la Palestine. Donc, les militants, les chercheurs et chercheuses, étudiants, étudiantes, syndicalistes qui ont été sanctionnés, entendus, censurés. Certaines sont jugées ou convoquées pour avoir fait l'apologie du terrorisme. Mais ce ne sont pas des terroristes ni des apologistes de crimes. Ils et elles défendent des opinions politiques. Elles peuvent ne pas plaire. Faut-il pour autant bâillonner leur liberté d'expression? Si elles et eux sont visés aujourd'hui, nous ne pourrions-nous pas tous et toutes l'être demain? Et d'ailleurs, ça me fait penser, Dominique, en Allemagne, il y a eu une conférence qui avait été annulée. C'était qui voulait faire cette conférence sur la Palestine?
Alors, c'était celui que tout le monde a connu à l'époque de la crise grecque, qui était ministre de l'économie grecque, Varoufakis, je crois qu'il s'appelle.
Yanis Varoufakis,
je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, oui. Et qui devait participer donc à un moment de conférence, enfin de débat aussi, en soutien à la Palestine. Et l'État allemand a fait comme l'État français, interdit, tout simplement interdit, en l'accusant d'antisémitisme, alors que vraiment, ce n'est pas le cas, quoi.
Et je crois qu'il le dénonce sur YouTube, il dénonce ce fait-là qui s'est fait interdire sa conférence.
Oui, tout à fait, oui.
Parce que la liberté d'expression, c'est le droit de s'exprimer librement, d'exprimer ce que l'on pense. C'est une liberté fondamentale proclamée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Sans liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de penser et pas de démocratie. La liberté d'expression garantit aux citoyens d'avoir toutes les informations nécessaires pour se forger une opinion librement. Alors, tu peux nous faire aussi, Dominique, le rappel pour le samedi?
Eh bien, dans la continuité de cette liberté d'expression, rappelons que tous les samedis, alors je ne compte plus maintenant combien de semaines ça fait, à 10h à l'Agora Obona, nous nous retrouvons, comme partout en France d'ailleurs, pour soutenir l'idée d'un cessez-le-feu immédiat en Palestine.
Et on va passer à présent au plat de résistance sur les gigabassines dans le Puy de Dôme. Depuis plusieurs années, une poignée d'agro-industriels tente de s'accaparer l'eau un peu partout dans le pays. C'est maintenant au cœur de l'Auvergne, juste à côté, dans la plaine céréalière de la Limagne, à l'est de Clermont-Ferrand, qu'avance le plus grand projet de gigabassine jamais conçu en France, 2,3 millions de mètres cubes d'eau sur 330 000 mètres carrés de bâches plastiques. Pour l'instant, deux projets prévus pour 2026. Un bassin de 13 hectares 9 à Bouzel. Un bassin de 18 hectares 3 à Saint-Georges-sur-Allier. Officiellement, le projet est porté par l'ASL des Turlurons, composé de 36 exploitations agricoles, dont font partie le président de la multinationale Limagrain, quatrième semencier mondial, et 5 de ses administrateurs. Officieusement, c'est donc bien Limagrain qui pousse ce projet dans l'intérêt de sécuriser sa production de maïs, semences, destinées à l'exportation. Le tout financé à 70% par de l'argent public, pour un coût global de 25 millions d'euros. Ces gigabassines se rempliront directement par pompage dans un des affluents de la Loire, l'Allier. La zone est pourtant classée Natura 2000 et supporte localement l'alimentation en eau potable de plus de 200 000 habitants et habitantes. Alors que les périodes de sécheresse sont de plus en plus fréquentes, longues et sévères, alors que l'approvisionnement en eau potable des populations est gravement menacé en Limagne et ailleurs, des multinationales s'accaparent l'eau pour maintenir un modèle obsolète. Et ça nous... Pour faire une petite pause, la musicale, Sylvain, tu peux nous mettre « Don't drink the water » pour se mettre un peu dans l'ambiance, s'il te plaît. There's no place here, what were you expecting? No room for both, just room for me. So you lay your arms down. Yes, I will call this. Les gigabassines se rempliraient directement par pompage dans l'Allier. Les pompages auraient lieu en période hivernale entre le 1er novembre et le 31 mars, avec possibilité d'obtenir une dérogation exceptionnelle pour pomper jusqu'au 30 avril en cas de remplissage incomplet. Cet accaparement va de pair avec la dégradation des sols, l'assèchement des écosystèmes, l'anéantissement de la biodiversité et la pollution des eaux par l'usage intensif de la chimie agricole. Aucune mise en place d'infrastructures agroécologiques tels que des haies, bosquets, de l'agroforesterie, des zones humides, rien de tout cela n'est évoqué par l'ASL de Turlurons. Pourtant, cela joue un rôle clé dans le maintien de l'eau dans les sols. Moins d'érosion, d'évapotranspiration, de stress hydrique ou encore moins d'assèchement éolien. Aucun engagement n'est pris concernant la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires qui jouent un rôle notable sur la qualité de l'eau. D'après la présentation des porteurs de projets, les mégabassines seraient recouvertes de panneaux photovoltaïques flottants.
Tu veux nous en dire plus là-dessus ?
J'ai quelques détails à ce sujet. Oui, vous avez bien entendu, c'est des panneaux photovoltaïques flottants sur les gigabassines. Ces derniers, en plus de produire de l'énergie, seraient supposés réduire la perte en eau par évaporation. Il n'y a pas encore d'études sérieuses sur ce type de processus, donc on ne sait pas encore les conséquences que cela aurait. J'avais trouvé encore une autre musique bien en rapport avec les histoires d'eau. Alors là, cette fois-ci, c'est les Beach Boys qui nous donnent comme titre « Don't go near the water ». Don't go near the water. To do it anymore. To be cool with the water is the message of this song. Alors bon, on imagine bien que c'est des cultures, enfin ça sera surtout pour cultiver du maïs en fait tout ça. Au moins 150 hectares seront dédiés à ça sur les 400 hectares pour l'ouvrage de Bouzel. Alors, et puis, la société Limagrain pense bien faire d'autres projets de méga-bassines en Limagne pour les années futures. Au vu des éléments recueillis et de l'implication de la firme Limagrain dans le projet, il apparaît que ce projet de gigabassine serve avant tout à une agriculture productiviste. C'est un modèle agricole qui est délétère pour l'environnement et particulièrement pour la ressource en eau. Ces chamboulements du paysage entraînent inexorablement une diminution conséquente de la quantité d'eau retenue naturellement dans les sols. Alors, il va y avoir des mobilisations à venir. La lutte anti-bassine s'organise dans le Puy-de-Dôme. Et après les événements de Sainte-Soline, les opposants à ces projets appellent à une large mobilisation le 11 mai prochain. Donc rendez-vous samedi 11 mai à côté de Billom avec un pique-nique. Et en juillet, y a des appels à constituer des convois de l'eau.
Alors, vu l'heure qui tourne, je pense qu'on va se passer de la petite musique qu'on avait prévue ensuite. Juste préciser que Billom, c'est Billon. À mon
Ah,
avis, c'est
pardon.
Billon.
Oui,
En Auvergne, on
la
dit Billon. On dit
prononciation.
Billon en Auvergne. Je dis ça parce que j'ai longtemps vécu là-bas. Mais bon.
Oui.
La dernière partie de notre émission,
On va passer au
c'est les
dessert.
desserts. Et oui, on y arrive quand même. On va quand même trouver le moyen de le caser, même si c'est la fin de l'émission. Et on va aller directement à la recette avec un produit que vous connaissez sans doute beaucoup, qui sont les falafels, qui sont un plat libanais, hein, mais qui voilà, pareil en Palestine, en Jordanie, en Syrie, en Turquie, même du Sud. On retrouve ce plat en Arménie, voilà. Donc pour cela, il vous faut 250 grammes de pois chiches secs trempés, donc en général on fait ça la nuit, hein, on laisse tremper de la veille, du persil plat, de la coriandre fraîche, 3 gousses d'ail, cumin, paprika, coriandre en poudre, un oignon, 10 grammes de graines de sésame dorées, de l'huile de friture, 40 grammes de tahine ou de crêpe de sésame, comme on dit en français, un citron jaune, du sel fin, du poivre et 10 centilitres d'eau. Pour la préparation, vous égouttez les pois chiches trempés, vous les séchez dans un torchon, vous émincez les gousses d'ail et l'oignon, lavez et feuillez toutes les herbes fraîches, versez les pois chiches dans le bol du robot, ajoutez l'ail et l'oignon, les herbes fraîches et toutes les épices. Mixez pour obtenir une pâte, craquez les parois du bol et mixez une seconde fois, mais pas trop parce que sinon après ça devient de la purée, une crème même, et réservez au frais. Ensuite, vous mouillez vos mains légèrement pour former des boulettes avec cette pâte, en la sortant du frigo bien sûr. Et pour la cuisson, vous chauffez l'huile à 180 degrés, plongez les boulettes dedans et vous les retournez pendant la cuisson. Elles doivent être bien dorées. On les laisse égoutter un petit peu sur le papier absorbant. On fait la petite sauce, on ajoute le jus de citron et l'eau dans la crème de sésame, plus sel, bien mélangé. Et on sert tout ça avec un pain pita, la sauce sésame et un peu de taboulé, c'est encore meilleur. Pour les falafels, il existe des moules à falafels, si vous voulez, et ça fait des ronds un peu comme une roue, quoi, en fait, avec un trou au milieu. Et c'est très bon comme ça aussi.
C'est des falafels sphériques en
Voilà.
3D. Alors, ben, il est temps de conclure. Donc, je vous rappelle le mail de l'émission, parole de citoyen @fréquence7.net tout attaché. Et ben, on espère vous retrouver bientôt. Et je remercie Sylvain à la réalisation et à la technique de cette émission. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con. On les consacre que leur sacré con.